Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Jacques-Yves Molliment.
Situation sécuritaire qui prévaut dans les Maïndombe, Kwilu et Kwango au centre d'une importante réunion que le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a présidé hier lundi à la primature. Ces conflits communautaires portent visiblement une main noire qui nécessite une implication de tous. Et puis, accident de circulation hier lundi sur la route menant vers le chef-lieu du territoire de Louboudi, dans la province du Lualaba. Bilan 19 morts. L'excès de vitesse serait la principale cause de cet accident. Enfin, la journée mondiale du tourisme est ce 27 septembre. Et quels sont les défis et opportunités que représente le tourisme dans la région autour du parc national de Virunga? Pour en parler, nous recevons dans cette édition Gédéon Barry-Ketty, expert et activiste de l'environnement. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Situation sécuritaire qui prévaut dans le Maïndombe, Kwilu et Kwango au centre d'une importante réunion que le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a présidé hier lundi à la primature. Cette réunion a connu la participation du vice-premier ministre en charge de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, de la ministre d'État en charge de la justice, des ministres de la Défense nationale, des finances, des droits humains, des affaires sociales, du vice-ministre du budget, du gouverneur de la ville de Kinshasa ainsi que des services de sécurité et de renseignement. Le conflit communautaire dans les provinces issues du démembrement de l'ex-Bandundu porte visiblement une main noire, d'où il fallait un tour de table pour évaluer la situation et combattre cette situation qui nécessite l'implication de l'ensemble du peuple congolais ainsi que de tous les services de sécurité et plus particulièrement l'armée et la police nationale. On écoute Daniel Asselo dans cet extrait que nous propose Daniel Tambizoni.
Ce conflit communautaire, mais qui visiblement porte une main noire sur lui, doit être combattu par l'ensemble de notre peuple et par les services de sécurité et de renseignement plus particulièrement. Il y a l'armée, il y a la police qui sont mises à l'œuvre au jour d'aujourd'hui dans la province de Maïndombe, plus particulièrement dans le territoire de Kwamout, et sur la route nationale numéro 17, où les insurgés se retrouvent encore dans des forêts, dans des savanes, en train de continuer à commettre des actes ignobles. Ainsi, nous encourageons notre peuple à se lever et à participer activement en ce qu'il doit dénoncer ces infiltrés et ces inciviques congolais qui se permettent de commettre des actes de déstabilisation de notre pays jusqu'à ces jours.
Par ailleurs, en ce qui concerne le Kuluna ici à Kinshasa, le Premier ministre a instruit la police et l'armée à se mettre debout pour empêcher ces jeunes gens de continuer à donner la mort et à imposer la loi, leur loi dans la ville. Autre nouvelle, les forces armées de la République démocratique du Congo, FRDC, 11e région militaire de garnison de Kikwit, Kwilu, annonce ce mardi 27 septembre 2022 le lancement des opérations militaires dans les territoires de Kwamout au Maïndombe, notamment sur la route nationale numéro 17, dans son tronçon entre le village Kabankou et Massiambio. De ce fait, elle demande à toute personne se trouvant dans des petites fermes de ce coin et n'ayant pas de connivence avec les assaillants, de quitter ces milieux et de se rendre là où il y a la population. Le chargé des opérations militaires de cette garnison, le colonel Moïndo Jean-Baptiste, qui l'a dit, alerte que toute personne trouvée dans la forêt ou dans ces fermes sera attaquée en tant qu'ennemi de la paix parce que ces assaillants sont confondus à la population. Toutefois, il appelle la population à ne pas paniquer, mais à dénoncer ces agresseurs. On l'écoute au micro de Irène Mboma.
Le message que je vais lancer à la population, surtout la population de Kwamout, est que toute personne qui n'est pas à mèche avec les bandits, qu'il quitte toutes les fermes, parce que les bandits sont dissimulés dans des différentes fermes. Alors, nous voulons lancer les opérations, il faut que toute personne qui n'est pas à mèche avec ces bandits, qu'il quitte. Quand nous allons lancer les opérations, c'est lui que nous allons rencontrer avec ces bandits, nous allons l'attaquer comme tel. Donc, demain après demain, on lance les opérations. T'as dit quoi? Ceux qui sont avec les bandits, qui se déplacent là où il n'y a pas de bandits, parce que ces bandits-là sont confondus avec la population. On ne sait pas qui est avec l'arme, qui n'a pas avec l'arme. Alors, c'est lui qui sait qu'il n'est pas à convivance avec ces bandits-là, qu'il quitte, qu'il vienne là où il y a la population. S'il y a un bandit-là, qu'il voit un bandit-là, il doit dénicher. Il dit non, je suis avec un bandit-là, je ne connais là où il est venu, il déniche les bandits. Donc, nous voulons lancer des opérations de la R17 à Kwamutu. Donc, trosseau, Kabangu, tu vois Kabangu jusqu'à Machambio. Dans ce trosseau-là, tous ceux qui sont là avec les bandits-là, il faut quitter. Parce que tous ces bandits-là sont à tenue civile. La population, quand ils voient la tenue militaire, c'est-à-dire qu'ils viennent les sauver, qu'ils n'y aient pas peur.
Alors, après avoir mis la main sur six suspects dans le cadre du conflit interethnique Teke-Yaka dans la matinée du lundi 26 septembre 2022 à Fatundu dans le secteur de Wamba, territoire de Bagatan, province du Kwilu, la police a encore arrêté jusqu'à ce mardi matin six autres personnes présentées comme des présumés assaillants de ce conflit, ce qui amène le nombre de suspects déjà arrêtés à 12, dont trois femmes, y compris le meneur, comme le dit le chef de secteur de Wamba, Martin Gabia. Leurs armes blanches, dont de longues manchettes, sont saisies par la police, ainsi que leurs objets mystérieux ou gris-gris. Selon notre source, c'est grâce à la collaboration de la population que ces bandits sont arrêtés. À l'occasion, il remercie le gouvernement provincial du Kwilu qui a dépêché un nombre important de policiers à Fatundu pour la sécurisation de la population. Pour le moment, un calme précaire est observé dans le coin malgré la présence de plus de 11 000 déplacés au groupement Kalakitini et plus de 5 000 déplacés à Fatundu Centre. Et puis désormais, le trafic peut reprendre sur la route nationale numéro 17 dans son tronçon compris entre le village Mungata et la ville de Bandundu. Le gouvernement provincial du Kwilu, qui avait suspendu le trafic sur cet axe routier depuis près d'un mois maintenant, a annoncé hier lundi 26 septembre la réouverture de cette route. Cela après le positionnement des éléments de FRDC sur les dix tronçons afin de parer les attaques des ennemis de la paix et pour sécuriser la population. Et c'est bien, dans un communiqué officiel, Maître Zéphirin Mouma Ngoumenzei, secrétaire général du gouvernement provincial du Kwilu, appelle donc quiconque qui voudrait voyager par cette route à le faire. Il est au micro de Irène Mbouma.
Consécutivement aux mesures prises par le gouvernement de la République en guise de la résolution du conflit Teke-Yaka du territoire de Kwamutu dans la province de Maïndombe, à savoir la sécurisation du tronçon Bandundu-Mungata. La province du Kwilu et son gouvernement ayant été particulièrement touchés par ce conflit, notamment par l'accueil des déplacés fuyant les atrocités, la rupture du trafic sur la RN17, occasionnant ainsi les difficultés d'approvisionnement des biens de première nécessité dans la ville de Bandundu et environ, ainsi que d'autres effets collatéraux, informe l'opinion. 1. De la réouverture au trafic de la route nationale numéro 17, tronçon Bandundu-Mungata, quiconque voudrait voyager par cette route peut le faire. 2. Les FRDC sont positionnés sur les dix tronçons routiers en vue de parer à toute attaque des ennemis de la paix et à sécuriser les personnes et leurs biens.
Autre nouvelle, en Ituri, le trafic a repris sur le tronçon Komanda Mambasa après quelques jours d'interruption à la suite de l'attaque des rebelles des ADF la semaine dernière à Toli. Toli, c'est sur la route nationale numéro 4. Plus de 300 véhicules qui étaient bloqués à Komanda, à Mungamba et à Mambasa Centre ont été escortés samedi dernier par les FRDC. Pour les chauffeurs, cette mesure est provisoire et le convoi est irrégulier sur cet axe. Ils plaident pour la neutralisation du groupe armé ADF pour leur permettre de circuler librement. Isaac Remoyopi.
Les premiers convois étaient organisés le samedi dernier sur l'axe Komanda-Mambasa. Des centaines de véhicules transportant des marchandises et des voitures de transport en commun bloquées pendant au moins 4 jours à Komanda, Mungamba, 23 km de Komanda et à Mambasa Centre, ont traversé les zones dangereuses à Tolitoli et Bahaha où les ADF ont incendié 6 camions et tué 5 personnes mardi dernier. Selon des sources locales, depuis dimanche, il n'y a pas un autre convoi et des dizaines de véhicules traînent encore à Komanda et à Mambasa. Des chauffeurs et des passagers s'en plaignent, comme l'explique un habitant.
Aujourd'hui, il y a plus de 15 camions. Les chauffeurs ne sont pas satisfaits. Bon, le convoi n'a pas d'importance, mais l'établissement de la sécurité, c'est ce qui est important.
La société civile de Mambasa demande au gouvernement d'écarter toute menace des rebelles des ADF qui sont encore visibles sur cet axe, ce qui va permettre de supprimer les convois et rendre les trafics fluides.
Cette instauration des convois, mais la population n'est pas d'accord. Nous appelons toujours les autorités de lancer des opérations de nettoyage dans cette partie de notre territoire pour que les gens vaquent librement à leurs activités.
Signalons que l'insécurité sur la RN4 de Luna à Mambasa affecte l'économie de la province de l'Ituri. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, le gouverneur a levé depuis hier lundi la mesure du couvre-feu dans la ville de Goma. Le lieutenant général Constant Dima l'a annoncé dans un arrêté portant mesure de sécurité de la population de la province pendant les fêtes de fin d'année et qui modifie celui du 19 décembre 2021. Selon l'extrait rendu par son conseiller en charge de sécurité, le reste de la province du Nord Kivu, les heures du couvre-feu sont maintenues jusqu'à nouvel ordre en attendant l'amélioration des conditions sécuritaires. Les propos du général de brigade Yang Badani sont recueillis ici par la presse du gouvernorat.
Considérant les recommandations formulées par le membre du comité provincial de sécurité au cours de la réunion extraordinaire de sécurité élargie tenue à Goma en date du 26 septembre 2022, vu la nécessité et l'urgence élevée, la mesure de couvre-feu sur toute l'étendue de la ville de Goma. Article 2. Pour le reste de la province du Nord Kivu, les heures du couvre-feu sont maintenues jusqu'à nouvel ordre en attendant l'amélioration des conditions sécuritaires. Le directeur de cabinet du gouverneur de province, le commandant de la 34e région militaire, le commissaire provincial de la police nationale congolaise, les maires de ville sont chargés de l'exécution du présent arrêté provincial qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Rappelons que la mesure du couvre-feu à partir de 21h dans les villes de Beni et Butembo et 22h dans la ville de Goma avait été annoncée le 28 décembre 2021. La mesure avait coïncidé avec des attentats à la bombe, dont celui du 25 décembre 2021 à Beniville, qui avait causé 8 morts et 13 blessés. Alors, le lieutenant général Constant Dima qui a annoncé la levée immédiate du couvre-feu dans toute la ville de Goma depuis hier lundi. Cependant, la mesure reste maintenue dans d'autres zones du Nord Kivu, comme vous venez de le suivre. Alors, à Goma, cet arrêté suscite plusieurs réactions. Si différents acteurs remercient l'autorité pour cette décision, ils estiment tout de même que l'insécurité à l'origine du décret du couvre-feu reste toujours un défi. Suivons successivement à ces propos Ngoyi Kisirani de la coordination des motards, Yannick Ramazani du parti Nouvel Élan et Mario Ngavo de la société civile urbaine de Goma.
Nous remercions d'abord son excellence Costa Ndima pour lever le couvre-feu dans la ville de Goma. Ce qu'on peut demander encore une fois à son excellence, c'est les postes sécuritaires de la ville, surtout nos motards, qui soient sécurisés pendant la nuit et pendant les jours. Que la police qui a arrêté nos motards hier soir, après la levée des couvre-feu dans la ville de Goma, qu'on remet le moto qu'ils ont ravi au niveau de la population.
Et nous pensons également que le problème de sécurité reste toujours un grand défi par le fait que l'on assiste souvent aux actes de tuerie alors qu'il fait encore jour. Le phénomène 40 voleurs s'est déroulé au moment même où aucune sécurité circulation était permise au-delà de 22 heures.
Pendant tout ce temps, on a assisté à une légère baisse des criminalités nocturnes, des fraudes et contrebandes interterritoires et frontalières, également à la baisse de l'activité économique, aux multiples tracasseries policières et militaires, même dans les rues secondaires. La société civile salue donc cette mesure, mais demande à toute la population et au gouvernement d'être vigilante et de dénoncer les suspects, car les premiers agents de renseignement, c'est la population.
19 personnes sont décédées dans un accident de circulation survenu hier lundi sur la route menant vers le chef-lieu du territoire de Louboudi dans la province du Lualaba. La vitesse serait la principale cause de cet accident, Jean Gandou.
Cet accident s'est produit hier lundi aux environs de 16 heures. Le camion venait de l'espace Grand Kassai et transportait des passagers et un véhicule. Arrivé plus précisément dans la courbure appelée Ngukatalakabangu à 35 km du chef-lieu du territoire de Louboudi, le chauffeur a perdu le contrôle du volant et le camion est tombé. Le bilan fait état des 18 morts sur place, parmi lesquels les hommes, les femmes et les enfants et une trentaine de blessés. Une femme parmi les blessés a rendu l'âme ce matin à l'hôpital. D'après Gilbert Kayumba de l'ONG SCARC, ce bilan est encore provisoire.
Le véhicule est encore sur la route et puis il y a même des morts qui sont encore sous le véhicule. La route est en train d'être réhabilitée. La vitesse serait La cause principale est c'est dans les courbures. Et puis, il n'y a pas de signalisation routière.
D'après l'administrateur du territoire de Louboudi, jusqu'à présent, les corps des accidentés sont encore sur le lieu du drame. La morgue de l'hôpital général de référence de Louboudi n'ayant pas une grande capacité d'accueil. Il est fort probable que tous les morts soient enterrés sur place. Une délégation envoyée par le gouvernement provincial du Lualaba est arrivée sur le lieu de l'accident avant de se diriger vers l'hôpital général de référence de Louboudi où sont internés les malades. Les membres de la délégation ont décidé du transfert de tous les blessés graves vers la ville de Kolwezi pour une bonne prise en charge. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Au Togo, 4 élèves, dont une fille, sont toujours incarcérés à la prison de Dapaong, près de 6 mois après la grève menée par leurs enseignants, alors que les 3 enseignants membres du syndicat des enseignants du Congo sont détenus dans la capitale Lomé.
L'invité.
La journée mondiale du tourisme, c'est ce 27 septembre. Et quels sont les défis et opportunités que représente le tourisme dans la région autour du parc national de Virunga? Pour en parler, nous recevons dans cette édition Gédéon Bariketi, expert et activiste de l'environnement. Il s'entretient ici avec Bernardin Nyangi. Suivez.
Merci Gédéon Bariketi. Bonjour. La journée mondiale du tourisme cette année est commémorée sous le thème « Repenser le tourisme ». Pourquoi d'abord ce thème? Et qu'est-ce que ce thème peut représenter dans le contexte, par exemple, de notre région?
Exactement. Et ce qui est important pour cette année, le thème est repenser le tourisme, c'est-à-dire essayons de retourner nos pensées, nos réflexions sur le tourisme, parce que c'est un secteur qui semble être oublié dans notre pays, alors que la République démocratique du Congo, c'est un pays de méga biodiversité qui possède des merveilles dans le secteur du tourisme. Les merveilles que nous avons vraiment vaut des forêts aux animaux. Nous avons des montagnes. Notre pays raffermit la 3e montagne la plus haute d'Afrique, le mont Rwenzori, avec les neiges, les glaciers, mais aussi les espèces animales qui sont introuvables même au monde. Nous avons les okapis dans la réserve de Maïko, mais il y a des gorilles et des montagnes et des plaines, des montagnes qu'on trouve dans les parcs de Virunga, mais aussi des plaines dans les Kahuzi-Biega. Nous avons les bonobos, les chimpanzés et autres espèces rares comme les pas congolais. Donc, toutes ces richesses nous arrivent à penser aujourd'hui que notre pays, c'est un pays où l'industrie touristique peut générer des recettes et participer au développement.
Et alors, quel est l'appel que vous, comme acteur de l'environnement, avez à l'égard des autorités de la RDC, par exemple, en cette occasion?
Donc, à l'occasion de cette journée, j'ai lancé encore une fois l'appel aux autorités de voir ces potentialités touristiques. Vous savez, l'industrie touristique participe dans d'autres pays au développement, c'est-à-dire les recettes qui génèrent l'industrie touristique dépassent même les mines. Et avec tout ce que je vais vous dire, ces potentialités touristiques, par exemple la ville de Goma, elle est la ville touristique, elle est meilleure quand les touristes arrivent, ils sont émerveillés. Ils paient les taxes, les visas, et l'argent va entrer dans la caisse de l'État, l'enseignant, les militaires seront payés. Donc, nous devons arriver à réfléchir comment capitaliser ces secteurs pour que ces secteurs participent au développement de notre pays.
Et au sujet effectivement des défis, quels sont les plus majeurs que vous pouvez relever en cette occasion?
Mais il y a beaucoup de défis et ces défis relèvent de la sécurité dans les zones où les touristes peuvent venir voir. Les touristes se limitent dans des pays voisins parce que là il y a la paix, mais chez nous, il est rare que touristes viennent, que des touristes arrivent observer les merveilles de la RDC. Donc nous devons réfléchir sur comment réhabiliter nos routes, viabiliser nos hôtels, mais aussi sécuriser les sites touristiques. Et j'ai toujours dit, quand un touriste arrive pour voir le volcan Nyiragongo, il laisse l'argent. Quand un touriste, ce n'est pas gratuit. Mais aussi, un autre défi, c'est nous les Congolais. Nous pensons que le tourisme revient seulement aux étrangers. Non, nous devons aussi arriver à susciter encore le goût à la jeunesse, de connecter la jeunesse à la terre, à l'environnement, que les enfants viennent visiter les parcs de Virunga, viennent visiter nos richesses, surtout les promenades. Pourquoi? Dans les années qui passaient, on amenait les élèves visiter les animaux. C'est vraiment inconcevable de voir aujourd'hui que nos enfants qui vivent en RDC voient l'éléphant, les gorilles, les okapis dans la télévision ou sur les journaux, alors que c'est à de quelques mètres là où nous vivons. Donc, messieurs les journalistes, à l'occasion de cette journée mondiale du tourisme, nous demandons à tout le monde de s'impliquer pour que le secteur du tourisme soit un secteur générateur de recettes et que les recettes puissent participer et rafler les trésors publics et participer au développement de la République démocratique du Congo.
Monsieur Gédéon, merci.
Merci beaucoup, messieurs les journalistes.
Voilà, fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.